Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui et je remercie l'INP pour cette invitation. Je vais commencer donc à aborder cette exposition par la question de la rétrospective, puisque c'était dès le départ l'ambition de ce projet. Je sais que les rétrospectives sont aujourd'hui un peu mal aimées. On privilégie souvent les questions thématiques, on considère souvent plus riches, ou en tout cas qui mettent plus en avant une recherche ou une conception. Néanmoins, c'est une forme à laquelle je tiens personnellement beaucoup, puisque c'est cette formule qui permet notamment des relectures d'artistes, puisque c'était évidemment un des grands enjeux de ce projet. Puisque Fontana, évidemment, figure majeure de l'histoire du XXe siècle, était connue de tous. Néanmoins, avec cette problématique où c'était seulement une partie de son œuvre qui était connue, donc les toiles trouées ou les toiles fondues, alors que toute une partie de son œuvre était encore méconnue. Il y a plusieurs raisons à cela, et la plus importante est qu'il y a une absence réelle d'œuvres en France, puisqu'hormis le Centre Pompidou qui possède un ensemble d'environ une dizaine d'œuvres, il n'y a quasiment pas d'œuvres de l'artiste italien dans les collections publiques françaises. Quant au marché de l'art, évidemment, on en voit circuler régulièrement, mais il s'agit souvent des œuvres d'une même série. L'autre enjeu de cette exposition, évidemment, puisqu'on se confronte toujours au projet du passé, puisque nous parlait Philippe Dagen. Donc ce n'est évidemment pas la première exposition rétrospective consacrée à l'artiste. L'exposition de référence, puisque chaque conception d'exposition a toujours, disons, une espèce de rival auquel on s'affronte, enfin j'aime pas le terme de rival, mais disons de modèle, qui était la grande rétrospective qu'avait organisée Bernard Blisten au Musée national d'art moderne en 1987, donc qui regroupait une très grande partie de l'œuvre de l'artiste. Et donc la difficulté, comme je disais tout à l'heure, de ce projet était évidemment d'avoir une approche réelle du corpus d'œuvres, ce qui n'était pas simple puisque je pense que tout conservateur français, en tout cas la plupart, n'ont rarement vu vraiment un ensemble conséquent d'œuvres. Et je tiens encore à travailler à partir des œuvres réelles et pas d'images, comme on peut avoir souvent tendance à le faire. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse de la Fondation Carnot via l'INP qui m'a permis de partir plusieurs mois à Milan pour effectuer ces recherches. Et aussi, c'est aussi une question de survie plus pragmatique quand on travaille sur un projet italien, c'est qu'il faut être sur place puisque la Fondation Fontana se trouve à Milan. Donc il y avait aussi cette difficulté de travailler à distance avec un pays qui travaille peu à distance. Et donc il y avait ça, cette autre difficulté. Donc pour ce projet de rétrospective, le choix du parcours a été chronologique. Ce qui peut paraître extrêmement simple, mais néanmoins qui me paraît le plus juste, puisque c'est le parcours qui permet, en tout cas et d'autant plus pour Fontana, de mettre de plus en avant l'originalité de sa carrière et sa singularité avec ses questions de rupture et de synchronie. Et qui va vraiment à l'encontre du discours moderniste, donc qui voit souvent sa carrière comme un passage de la figuration à l'abstraction ou de la matière au concept. Hop, comme on peut le voir ici, donc c'était vraiment l'idée du parcours chronologique, de montrer comment on passe de ces sculptures figuratives à ça. Donc voilà, donc au milieu des années 30, il fait ses tablettes abstraites. Puis quelques années après, il passe de la sculpture en céramique extrêmement figurative, puis ensuite aux toiles trouées, puis en parallèle à cette série de sculptures en céramique baroque. L'originalité de cette exposition, en tout cas par rapport à celle organisée en 87 au Centre Pompidou, était notamment cette série qui est entre 49 et le début des années 50, qui montrait en fait comment, en parallèle à sa pratique spatialiste de toile trouée, Fontana va réaliser ces sculptures qui longtemps ont été considérées comme une pratique purement commerciale, plus décorative, et qui étaient vraiment reléguées dans les tiroirs de l'histoire de l'art par la critique de Fontana. Et donc l'idée de cette exposition était vraiment de montrer la synchronie des styles chez Fontana et de montrer comment il réalise des œuvres de différents styles, donc ses toiles trouées, et des œuvres de cette nature-là. C'était vraiment l'apport important de ce projet. Et de la même manière, plus ou moins contemporain de la femme à la fleur qu'on vient de voir, cette sculpture au sol qui est vraiment précurseur des pratiques de l'art minimal. Autre fantôme du passé, la première rétrospective en France de Fontana a eu lieu au musée d'art moderne, organisée par l'ARC. Donc on voit cette photo de l'époque de 1970, qui avait vraiment cette vision très années 60 de Fontana, qui était vraiment centrée sur sa pratique des années 60, avec ses toiles fondues et ses sculptures sur pied. Cette synchronie de style est finalement pas non plus complètement une nouveauté, puisque Fontana lui-même mélangeait vraiment les différents styles. À la Triennale de Milan en 1951, alors qu'il crée ce néon, donc on voit ici sur cette photographie pour l'escalier d'honneur de la Triennale, et en parallèle, dans la même exposition, il va présenter ses projets de sculpture pour le concours des portes du Duomo de Milan. L'autre aspect important de cette exposition était ce choix de mettre vraiment en avant la pratique sculpturale de Fontana, qui était plutôt connue comme l'homme aux toiles trouées. C'était aussi une façon d'insister sur le caractère plus matériel, plus physique de sa pratique. D'ailleurs, en termes de nombre, il y avait donc 210 numéros dans l'exposition et environ 80 sculptures, quelque chose comme ça. Donc c'était aussi une façon d'insister vraiment sur cette matérialité qui allait vraiment à l'encontre en fait, de l'image très conceptuel et minimal qu'on avait de Fontana. Donc de montrer aussi ce caractère extrêmement organique de sa pratique, on le voit dans cette photo de la fin de sa vie où il est dans sa maison de Comabio, pas très loin de Milan, où il travaille à cette toile rose. D'ailleurs, le rose était une couleur extrêmement présente dans cette exposition, parce que c'est une couleur que Fontana affectionnait tout particulièrement, et il a encore allé un peu à l'encontre de cette image qu'on a des toiles blanches très minimales. Donc, c'était aussi une nouvelle lecture de ces toiles célèbres, donc, qui mettait vraiment l'accent sur le côté sensuel et matériel de sa pratique. Donc je vous montre aussi une autre œuvre, voilà, qui insistait vraiment sur ce côté brillant, pailleté et doré de son travail, qui est vraiment en contraire à cette idée un peu trop conceptuelle qu'on avait de lui. Ça permet aussi de replacer un peu les toiles fondues dans un nouveau contexte, puisque beaucoup de gens nous disaient « Ah, c'est drôle parce qu'on fait plusieurs salles, on arrive à mi-parcours pour voir enfin des fentes ». Effectivement, ça correspond aussi à une réalité chronologique, puisque quand Fontana réalise ses toiles fondues, il a 60 ans. Et je pense qu'il faut vraiment prendre ça en compte. Donc ce n'est pas du tout un geste iconoclaste et un peu rebelle de jeune artiste, mais c'est déjà un artiste très établi dans sa pratique, donc très mûr. Et ça permettait aussi de revoir ce geste plutôt comme sous cet angle plus élégant, plutôt du geste maîtrisé, de la virtuosité et non plus de l'iconoclasme. Également, c'est la chronologie permettait de montrer vraiment comment en même temps qu'il fait son premier environnement en 1949, il commence à travailler sur toile, donc il est vraiment un médium beaucoup plus traditionnel. Pour ce qui est de la scénographie, on s'était beaucoup posé la question de la présentation des œuvres. J'avais moi-même, pour mon texte, fait beaucoup de recherches sur la façon dont Fontana lui-même montrait ses œuvres, notamment à partir de corpus de photographies, puisqu'il avait beaucoup travaillé avec les photographes Ugo Mulas et Giancolombo, et j'avais un peu regardé comment il montrait ses œuvres. De façon très étonnante, au lieu de photographier ses œuvres sur un fond blanc assez neutre, il photographiait ses œuvres sur des fonds, finalement, avec beaucoup de motifs. Ici, on voit une de ces tablettes abstraites qui va faire photographier devant un mur très taché. Donc on voit comment le motif de l'œuvre se mélange à celui du mur. De la même façon, il photographie ses premières œuvres trouées qu'il utilise comme des écrans faisant passer la lumière. Là, une photographie que j'aime beaucoup, qui est dans le jardin de son atelier Corso Monforte, où il fait photographier ses peintures de la série des Barocchi accrochées sur un arbre, avec cette interaction très forte entre ses œuvres et la nature. C'est malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, pour des questions évidentes de conservation, c'était impossible. Mais aussi, ça paraissait un peu artificiel de recréer ce type d'aménagement qu'avait fait l'artiste. Évidemment, on aurait pu mettre la musique de Zenakis dans des salles d'exposition, comme ça a été le cas lors de son exposition à la galerie Iris Claire. Mais ce n'était pas possible. Donc cette œuvre-là, que Fontana avait présentée dans l'herbe, où l'herbe traversait en fait les fentes de la sculpture, a été présentée simplement et sobrement au sol. Néanmoins, on a pu décadrer un ensemble d'œuvres, puisque beaucoup de fentes sont arrivées dans des encadrements particulièrement baroques. Même chose pour la série Natura. Lui-même l'avait présentée donc, soit sur des caisses, ou alors comme ici, ou encore en pleine nature. Mais nous avons réussi néanmoins à rendre cette idée un peu organique et multiple de quasi-installation, puisqu'on en a groupé une dizaine dans une salle. Même chose pour la série des tablettes abstraites des années 30, puisque Fontana l'avait présentée à la Galleria Il Milione à Milan, vraiment très proche du mur dans un rapport quasi de tableau. Donc on avait vraiment voulu recréer cette scénographie en mettant bien sur une étagère. Bon, sauf qu'au cours de l'accrochage, on s'est rendu compte que c'était extrêmement fragile, que les œuvres étaient vraiment risquées vraiment d'être détériorées. Donc une vitrine a été apposée dessus. Mais ça rend quand même l'effet qu'on voit ici donc, de l'époque, qui était la façon dont Fontana l'avait présenté dans les années 30. La question aussi un peu complexe pour moi, c'était celle des environnements spatiaux, qui est évidemment une question difficile, puisque tous, à l'exception d'un, ont été détruits, évidemment, puisque c'était des œuvres temporaires que Fontana avait réalisées à l'occasion d'expositions. Je ne vous cache pas que j'étais extrêmement réticente au départ à l'idée de faire des reconstitutions d'œuvres, mais ça m'a paru néanmoins important dans le cadre d'une rétrospective, étant donné l'attachement de l'artiste à la question de l'espace et le côté extrêmement précurseur de ces environnements. L'autre raison qui m'a convaincue de passer le cap des reconstitutions, c'est que l'artiste lui-même l'a fait à plusieurs reprises, puisque certains de ses environnements étaient refaits par lui-même avec beaucoup de variantes pour d'autres expositions. Donc, nous avons fait le choix de présenter trois environnements représentatifs de sa carrière. Donc ici, le premier qu'il a réalisé en 1949 à la Galleria del Naviglio à Milan, donc l'Ambiente Spaziale a Luce Nera. Puis ensuite, le néon qu'il a réalisé pour la Triennale de Milan de 1951, donc qui a été reconstitué à partir d'une modélisation graphique faite avec des photographies de l'époque. Évidemment, forcément, avec cette marge d'approximation qui est évidente dans le cas de reconstitution. Donc, pour ce qui est de ces objets, je pense qu'on a souvent... Enfin, c'est des questions qu'on se pose très fréquemment dans le cadre d'expositions pour ce type d'œuvres. J'envisage plutôt ces environnements comme des évocations que comme des reconstitutions exactes et avec tout ce que ça a aussi comme caractère, disons, documentaire. La question de la documentation s'est évidemment posée. C'est quelque chose d'extrêmement à la mode puisqu'on aime montrer un peu les recherches effectuées dans le cadre d'une exposition. Je trouve que c'est quand même un dispositif dont on use et abuse dans beaucoup d'expositions, comme si ça donnait un peu un pédigré scientifique à l'exposition. Néanmoins, je trouve que montrer les coulisses n'est pas toujours ce qu'on a envie de voir et qu'une exposition n'est pas un catalogue Et je crois que lire et regarder sont deux choses extrêmement différentes. D'ailleurs, Philippe Dagen parlait du fait que les expositions ne sont pas un message. Effectivement, je préfère parler plutôt d'expérience que de lecture ou de message. L'exception à la règle fut la série de photographies de Ugo Mulas, ce célèbre photographe italien, qui a réalisé ces photographies de Fontana au travail. Évidemment, le caractère faux et artificiel de cette mise en scène en font des œuvres d'art à part entière. L'autre exception à la règle était les films où on voit l'artiste en train de réaliser des œuvres, mais finalement le caractère performatif en faisait vraiment des objets avec un fort potentiel visuel. L'autre exception à la règle concernait l'architecture, qui était aussi une nouveauté dans cette exposition. Là encore, j'étais extrêmement réticente, puisque j'ai toujours ces souvenirs d'expositions avec des salles, des vitrines et des petits documents poussiéreux qu'on n'a jamais envie de voir, qu'on ne comprend pas quand on ne s'y connaît pas en architecture. Donc c'est une exception, évidemment, à laquelle on s'est laissé aller. Évidemment, la seule condition, d'avoir des vrais objets. Donc la salle architecture était incarnée uniquement par des maquettes ou des projets sculpturaux de l'artiste. Je terminerai en parlant d'un autre aspect assez important dans le cadre d'une exposition, c'est que les expositions sont souvent des opportunités d'acquisition. Ça paraît évident dans le cas d'expositions d'artistes vivants. Pour le cas d'artistes morts, en tout cas historiques, du niveau de Fontana, c'est une opportunité inespérée, ne serait-ce que parce qu'on acquiert une expertise importante, ce qui n'est pas négligeable, puisqu'évidemment la question du défaut se pose énormément. Là, c'est vrai que d'avoir travaillé autant de temps sur le terrain, ça permettait d'avoir une vraie expertise. Mais c'est aussi l'occasion de gestes plus généreux, puisque nous avons obtenu de la Fondation Fontana le dépôt du néon que nous avons réalisé pour le hall d'entrée du musée, donc qui est encore en place. Et je cherche de manière extrêmement active à acquérir pour le musée une sculpture de Fontana des années 30, et on espère pouvoir y arriver à la fin de l'année.